France Inter.
Réalisateur Sébastien Lifshitz confectionne dans ses documentaires et ses fictions des portraits intimes toujours tendres. Fasciné par les images autant que par les corps qui racontent chacun à leur manière l'histoire des individus auxquels ils sont liés, ce collectionneur de photographies magnifie les êtres qu'on ne regarde pas ou qu'on ne veut pas regarder. Deux jeunes garçons amoureux dans presque rien, d'irrésistibles homosexuels âgés dans le documentaire Les Invisibles, la première organisation sociale et politique à sortir les travestis de l'invisibilité à partir de 1950 dans la campagne new-yorkaise dans Casa Susana. Le cinéaste filme des corps désirés, aimés, cachés, exposés, transformés, abîmés et parfois mourants, en fiction ou en vrai, comme dans Wild Side ou Les Vies de Thérèse. Les corps, les visages racontent et révèlent. Dans son dernier documentaire Madame Hoffman, on voit ceux de Sylvie, infirmière cadre du service oncologie de l'hôpital Nord de Marseille, se battre contre vents et marées en pleine crise du Covid pour que les patients soient bien soignés, que ses collègues tiennent le coup ainsi que ses proches, dont les santé sont aussi fragiles que celles des inconnus dont elle s'occupe sans relâche. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Sébastien Lifshitz.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui vous a le plus préoccupé aujourd'hui ?
Aujourd'hui ?
Oui.
Qu'est-ce qui m'a le plus préoccupé ? Il se trouve que demain c'est l'avant-première du film et on était dans toute l'organisation de cette avant-première. Voilà, c'est très personnel. Après, c'est sûr que quand je regarde l'actualité, je suis toujours... J'ai été très marqué en fait par l'annonce de Zelensky quand il dit que s'il n'a pas l'aide américaine, ils perdront la guerre. Et je sais pas, j'avais un peu cette phrase en boucle, en parallèle dans ma tête.
Ça vous a ému ? Ça vous a ému de quelle façon ?
Je trouve ça bouleversant. Enfin, pour moi, le conflit ukrainien est quelque chose qui est tellement une question qui nous est posée à nous tous. C'est l'Europe. Tous ces jeunes soldats... Là, l'appel en fait a été baissé à 25 ans, apparemment, ou 23 ou 25 ans, je ne sais plus. Donc, il va y avoir un nouvel appel en fait, des hommes à aller sur le front. Et je me dis, j'imagine six jeunes comme ça se retrouver dans un combat comme ça à la vie à la mort. Et je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai vu aussi qu'il y avait une photo qui, j'ai son portable en venant et. Et il y avait le visage d'un jeune soldat en fait qui mourait et des gens qui lui disaient au revoir en fait comme ça. Et il avait 19 ans et je trouvais ça assez fou. On est tellement loin de ça en même temps ici, toute notre jeunesse comme ça et on est si loin en fait de ce conflit. Ça semble à la fois si abstrait et en même temps c'est si proche et si concret.
Bien sûr, ça modifie absolument tout. Enfin, on peut le ressentir, si on s'intéresse un minimum à l'actualité.
D'ailleurs, dans Madame Hoffman, je me souviens que les filles, en fait, qui sont dans le service de Sylvie, dès que la guerre a été déclarée, trois des infirmières de son service ont voulu partir sur le front pour aller en Pologne. Et donc Sylvie était à la fois en panique et parce qu'évidemment trois infirmières en moins dans son service, c'est une catastrophe. Et en même temps, elle comprenait, elle voulait les aider. Et puis finalement, l'arrière-front en fait en Pologne a dit que voilà, ils étaient qui n'avaient plus besoin en fait de personnel soignant. Donc finalement, elles sont restées, mais ça a été tout de suite une question pour tout le service.
D'ailleurs, vous montrez Sylvie en train de voir la déclaration au JT, le début de la guerre en Ukraine.
C'est un contexte qui me semblait important. Le film traverse une année quand même de sa vie. Il fallait qu'il y ait des marqueurs temps. Et le conflit en Ukraine était là dans nos têtes. Même si le quotidien, d'une certaine manière, vous détourne de toutes ces questions. Finalement, dès que vous allumez la télévision, la radio, n'importe quoi, voilà, quelque chose vous y ramène.
Sébastien Lifshitz, en 2020, vous disiez aux Inrocks que vous tentiez de vivre des expériences avec l'attitude d'un plasticien, d'un artiste qui essaye dans son coin des choses. Que n'avez-vous pas encore osé expérimenter ?
Je sais pas encore. Il faudrait que je m'y penche, mais le. Je pense qu'il y a tellement de vie à raconter, tellement aussi de photographies à sauver, toutes ces photos que les gens jettent, ces maisons qui sont vidées quand tout d'un coup les gens décèdent, vous voyez, et qu'on fout tout ça à la poubelle et que ces vies sont effacées. Je sais pas, j'essaye toujours dès que je peux, par exemple, quand je suis au puce dans des vides-greniers et tout ça, de un peu de sauver toutes ces images.
Vous les appelez votre royaume, les brocantes, vos royaumes.
Ce week-end, j'étais dans un vide-grenier et tout d'un coup, je suis tombée sur un stand. Le type avait que des photos japonaises, des années 30 aux années 60, incroyable. J'en ai acheté des centaines. Je suis restée 3 heures sur son stand. J'étais complètement, immergé dans toutes ces vies, cette culture, ce monde, c'est vraiment un ailleurs, quoi, le Japon, et je trouvais ça, c'était un voyage, quoi.
Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez ne pas pouvoir filmer? Des tabous?
En documentaire?
Les deux, en fiction, documentaire.
C'est pas pareil, quand même.
Ouais, je sais.
Ça engage pas de la même manière. En documentaire, je filme toujours avec l'accord des gens. Je voudrais pas être dans une situation où je viendrais à voler quelque chose. Et je me souviens que, par exemple, sur Ado, je leur avais dit tout de suite que jamais je les filmerais nus ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des limites à filmer l'intime et que jamais, voilà, j'irais leur demander quelque chose, voilà, que je trouverais indécent, inutile et... Et je crois que ça les a rassurés, parce qu'elles sont à un âge où elles changent tellement en plus physiquement. Et donc, par exemple, la question de la poitrine, ce genre de choses, voilà, aurait pu être un sujet, par exemple. Et bizarrement, je me souviens, ça s'est déplacé sur un moment, elle parle des vergetures. Je me souviens de cette séquence, ça devait être sur la 5e année de tournage. Et tout d'un coup, elle s'ausculte les unes les autres, comme ça, en maillot de bain, voilà, et elle parle de... cette apparition comme ça des vergetures, et il y en a, je crois que c'est Anaïs ou Emma qui est assez inquiète de ça. Ouais.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de grâce. Aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse. Aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je, sans la voix, cherché, parler devant, parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment? Ne serait-ce tombe en en disgrâce, aurais-je effleuré cette grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont...
Alain Chamfort, le morceau La Grâce.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Sébastien Lifshitz, mercredi sort votre documentaire Madame Hoffman avec Sylvie, infirmière cadre du service oncologie de l'hôpital Nord de Marseille depuis 40 ans et juste avant sa retraite. Et vous ne saviez pas au début du projet que le film serait sur elle. Elle a été surprise quand vous lui avez dit et elle a eu pourtant devant la caméra un abandon immédiat.
Mmh. C'est vrai. Et je me souviens du premier plan que j'ai filmé avec elle. C'était à 5h30 du matin, parce qu'elle se lève très très tôt pour aller dans son service. Et tout d'un coup, il y a eu une espèce de synchronicité entre elle et la caméra, sans que je dise quoi que ce soit, qui m'a complètement fasciné. Avec Elio, le chef opérateur, on s'est regardé et c'était étonnant quand même de voir à quel point elle avait une sorte d'aisance à être devant la caméra, sans se poser la moindre question. Et il y avait une sorte de fluidité, vraiment, qui était quasi permanente. Et après, j'ai réfléchi à ça et je me suis finalement... J'ai mis une sorte de petite hypothèse. En fait, Sylvie, c'est quelqu'un qui, en tant que cadre infirmière, met en scène son autorité dans un service comme celui-ci. Elle est obligée, à un moment, à la fois pour fédérer une équipe, pour, je dirais, un minimum surveiller, régler les conflits parfois. Elle met en scène son autorité comme un prof devant sa classe pour capter son auditoire. Il se met en scène, il met en scène sa parole, sa présence. Et puis il y a aussi beaucoup de situations parfois très délicates où il faut être complètement en contrôle quand il s'agit d'annoncer quelque chose à un patient ou à la famille, et ou parfois les gens qui pètent un plomb. Et donc vous devez, en tant que cadre infirmière, savoir répondre et gérer ces situations. Donc être dans le contrôle, je dirais, la mise en scène de soi, c'est dans le fond quelque chose qui est devenu une sorte de seconde nature pour elle. C'est pour ça qu'à mon avis, cet abandon devant la caméra s'est fait aussi très naturellement. Elle n'a pas le problème, en tout cas, de son image.
Elle va jusqu'à passer des coups de fil intimes devant vous, à dormir même. Comment est-ce que vous avez fait pour la filmer en train de dormir? Est-ce qu'elle feint de dormir?
Je lui ai dit, tu sais, c'est important pour moi de filmer aussi les moments où t'es juste épuisé. Mais elle comprenait très bien, je lui expliquais toujours. Je lui dis, donc à un moment, quand tu vas te reposer, on fera le moins de bruit possible, hein, mais on va s'incruster et on restera pas longtemps, voilà, et je te filmerai en train de te reposer. Voilà, ce sont des choses comme ça. En fait, je préviens toujours. Sur adolescent, je me souviens que, par exemple, quand je voulais filmer des réveils le matin très tôt des filles, je leur disais, bon, tu vas te réveiller à quelle heure? Elle me disait 6h30. Je lui dis, bon, ok, on sera là à 6h15. Laisse juste la porte un tout petit peu entrouverte, et mais elles étaient tellement dans le coltard, en fait, qu'elles nous calculaient pas, en fait, et donc on essayait, voilà, on rentrait comme ça tout doucement dans la chambre et on se mettait en place comme on pouvait, et pour filmer, voilà, ce petit matin qui était important quand même, qui est quelque chose de tellement récurrent dans leur vie d'adolescente. Voilà, donc des situations comme ça intimes, oui, ça arrive souvent quand on fait un documentaire sur un si long temps de tournage.
Vous avez mis des micros cachés sous les blouses des soignants et il semble que les caméras ne dérangent personne, les patients non plus, ce qui paraît très étonnant. Vous n'avez eu aucune réticence?
Avant de tourner, j'ai expliqué à toute l'équipe quel était ce projet. Et c'est justement parce qu'on restait longtemps que ça les a rassurés, en fait. Ils avaient le sentiment que, du coup, on allait pouvoir enfin rentrer dans des détails, qu'on allait vraiment regarder le quotidien d'un service, et que c'était pas juste un reportage fait en 2 heures par un JT, en fait. Et donc, à cause de ça, je pense qu'ils ont été tout de suite en confiance et ils ont voulu vraiment participer. Il y a juste une seule infirmière qui n'a pas voulu que je la filme, donc je lui ai dit qu'il y avait évidemment aucun problème et on lui a demandé d'éviter de rentrer dans le champ de la caméra le plus possible, et voilà. Et ensuite, chaque matin quand on arrivait, On avait 5-6 micros HF, donc qui sont ces micros qu'on cache en dessous les vêtements, qui sont une sorte de sécurité, de confort au niveau du son pour nous. Et donc, je voyais à peu près les gens avec qui Sylvie allait être le plus en interaction, et on leur mettait ces micros. Et voilà.
D'abord, vous montrez Sébastien Lipschitz, Sylvie, se faire soigner pour un problème de surdité survenu d'un coup dans une oreille, et ensuite vous la montrez dans le combat incessant.
Le problème d'un AVC. En fait, Sylvie, elle a fait un AVC à cause du stress énorme qu'elle a eu pendant la première vague du Covid, où ils étaient complètement sous l'eau, sous-équipés. Enfin, c'était une catastrophe absolue. Et un soir, elle rentre chez elle, elle allume la télévision et tout d'un coup, elle n'entend plus rien. Et donc, elle augmente le son de sa télécommande. Elle ne comprend pas ce qui se passe, en fait, sur le moment. Et puis, et finalement, très vite, elle va tout de suite consulter. Et on lui dit, en fait, qu'elle a fait un AVC, qui est déjà un premier signe, si vous voulez. C'est comme un fusible qui pète, quoi. Et elle n'a jamais retrouvé véritablement l'audition d'une de ses oreilles. Et l'autre oreille a été aussi un peu altérée.
J'ai eu un décès ce matin, histoire de changer un peu pour égayer mes journées. La patiente, elle était Covid, tu sais. Et donc, avant qu'elle décède, la famille a voulu qu'on fasse une PCR Covid, tu sais, pour les rites funéraires. Hormis qu'on a fait un premier prélèvement. Le premier prélèvement, il nous est revenu non conforme. Donc l'infirmière de nuit a fait un deuxième prélèvement. Et j'ai 4 résultats. 2 négatifs, 2 positifs. Hormis que la famille porte plainte parce qu'ils ne peuvent pas faire les rites religieux. Et là, je les ai dans le couloir, qui veulent appeler l'ARS. La direction, je les ai appelés, ils ne veulent pas les recevoir. Non. Non, parce que pour la famille, et je peux les comprendre, hein, sur le dernier résultat, il est négatif à 4 heures du matin. Ah non, ils m'attendent, ils sont dans le couloir, là, devant. D'accord, donc j'attends l'appel du biologiste.
Là, Sébastien Lipschitz, c'est Sylvie qu'on entend. C'est un extrait qui montre bien le chaos auquel elle doit faire face absolument tout le temps. Et en plus, à ce moment, c'était au bout d'un an de pandémie de Covid, où on était tous perdus. Parfois, c'était positif, négatif. On n'avait pas de règles. Là, il y a une famille qui attend pour rapatrier un corps en Algérie, mais les corps covidés sont soumis à des règles. Et donc, on comprend absolument tous les partis, la famille endeuillée pour qui c'est terrible, les soignants qui doivent prendre des précautions mais qui ont une empathie folle pour les patients, et les soignants qui font des tests PCR à des cadavres. Est-ce qu'à un moment, quand vous filmiez ça, vous avez ressenti de l'effroi en filmant ce chaos, cet hôpital public si précieux qui manque tant de moyens, ce personnel soignant épuisé et ces malades furieux, tristes ou terrifiés? Ça a dû être dur.
C'était pas évident même pour nous, en tant qu'équipe, si vous voulez, de justement filmer, comme vous dites, le chaos, les moments de tension, mais il le fallait parce que c'était nécessaire au récit pour pouvoir raconter en fait quel était ce quotidien de Sylvie. Il fallait que je trouve des situations où on m'autorise déjà à les filmer et qui racontent en fait ces luttes permanentes. Par exemple, pendant le Covid, le nombre de fois où il y a eu des patients, enfin plutôt des familles qui ont accusé en fait l'hôpital d'avoir contaminé un des membres de leur famille, alors que très souvent, en fait, les tests, parce que, en fait, vous avez souvent des tests qui sont pas fiables, en fait. Quand un patient arrive, il est tout de suite évidemment testé, mais des fois, il y a des erreurs, en fait, qui se produisent. Et souvent, en fait, il est porteur du virus, mais ça va se déclarer, on va dire, un tout petit peu après, ou voilà. Et les familles qui sont tellement dans la panique et je dirais en colère, en fait, de cette situation, souvent, en fait, se défoulent sur le personnel. Et là, on a un cas, voilà, qui était très concret, où tout d'un coup, la famille va absolument assister à la toilette, en fait, mortuaire. Sauf que c'est pas possible, étant donné qu'il y a des règles très strictes. Et bon, voilà. Et donc, Sylvie doit gérer toute cette question avec la famille qui attend dehors et qui est en train de péter un plomb, etc. Ouais.
Quand au bout de tes mains, tu as la vie ou la mort, tu es en train de masser quelqu'un, tu te dis, il ne faut pas que je me loupe, tu masses, il ne faut pas que je me loupe. Toi, dans ta tête, tu dis ça, tu as le visage de la personne en face de toi. Tu as sa famille qui hurle dans le couloir à côté et qui compte sur toi pour le faire revenir, tu vois. Donc, à l'intérieur de toi, tu connais tous les gestes qu'il faut faire, tu les connais par cœur, tu les maîtrises, tu les as fait des milliards de fois. mais tu te dis toujours, il faut que j'y arrive. Et la fois où tu n'y arrives pas, dans ta tête, tu culpabilises tellement, parce que tu te remémores tout, tu te dis, j'ai fait ça, j'ai passé l'adrénaline, j'ai fait ça. Mais si j'avais fait ça en premier, peut-être que j'aurais gagné du temps, tu vois. Tu décortiques tout ton temps, alors que tu as été performante, tu l'as fait des milliards de fois, tu as toujours fait la même chose. Mais quand tu perds quelqu'un, tu te dis, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que c'est que j'ai mal fait? Alors que tu n'as rien de mal fait. Tu n'es pas le bon Dieu, tu vois. Ce n'est pas toi qui décides qui doit mourir et qui doit vivre. Toi, tu fais le maximum pour faire vivre les gens. Mais malheureusement, des fois, tu les perds. Alors que tu as tout fait comme il fallait faire, mais tu les perds.
Sylvie, qu'on entend encore dans Madame Hoffman, Sébastien Lifshitz, on entend aussi cette culpabilité du personnel soignant dont on oublie qu'ils ont aussi des émotions déchirantes parfois. Je pense à cette scène où elle va annoncer à un chirurgien que le patient qu'il vient d'opérer est mort. Elle dit qu'elle a tenu 40 ans, elle, dans ce service grâce à sa carapace, mais une infirmière en moyenne tient 7 ans.
Mmh. Bah, c'est vrai que c'est en ça aussi que c'est, je dirais, une femme assez extraordinaire, parce que elle est passée depuis le tout début de sa carrière aux urgences, et notamment aux urgences enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment Sylvie, elle s'est pas, je dirais, elle s'est pas beaucoup protégée. Elle a souvent été dans des services vraiment difficiles où elle a été confrontée vraiment à du dur, quoi. Mais je pense que ça l'a, du coup, ça lui a donné une espèce de qualité humaine pour comprendre toutes les situations. Et souvent savoir quand même, comment aider, accompagner aussi son équipe. Par exemple, elle dit souvent que le moment où les gens vont boire un café dans la salle comme ça, c'est vraiment un moment très important, parce que en fait, c'est là où les infirmières commencent un peu à dire ce qu'elles ont sur le cœur, en fait, et à vraiment à lâcher leur bagage, quoi. Et pour elle, c'est très important parce que ça lui permet, en fait, de voir un peu l'état de toute son équipe, en fait. Et elle demande à la psychologue, en fait, de venir et d'écouter, comme ça, et de prendre la mesure un peu. Elle était très soucieuse, vraiment, de protéger son équipe. Parce que c'est vrai qu'on croit que les infirmières, elles sont en béton armé et qu'elles peuvent tout, d'une certaine... Mais pas du tout. Elles sont comme vous et moi. Et elles sont très souvent affectées par ce qu'elles traversent, quand même. Elles essayent de se protéger, bien sûr, et l'expérience aide. Mais il y a des moments où vous craquez, quoi. Elles ont tellement de responsabilités au bout de leurs mains, elles ont une vie quand même au bout de leurs mains, la plupart du temps, particulièrement dans ce service. Donc, et elles ont conscience quand même de ça.
Vous en avez vu craquer ?
Ça, oui, bien sûr. Bien sûr que j'en ai vu, oui. Il y a des moments où les gens sont à bout. Vous avez aussi le... Alors ça, moi, je ne l'ai pas filmé, mais... Vous avez une infirmière qui s'appelait Mounia et qui était en nuit. Et moi, généralement, je la croisais le matin quand on arrivait très tôt. Et quand on est infirmière de nuit, c'est très particulier parce que la nuit, les patients sont pas pareils. Vous avez d'autres types d'angoisses qui arrivent. Il faut savoir les écouter. Il faut savoir apaiser. L'hôpital ne se vit pas du tout de la même façon. Et donc, le personnel de nuit est formé par rapport à ça. Et Mounia, par exemple, était une infirmière incroyable. Elle les faisait rire, elle pouvait rester vraiment longtemps dans la chambre quand elle sentait tout d'un coup que les angoisses étaient beaucoup trop fortes, en fait, pour certains patients.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, j'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Merci, qu'on leur dise en leur cri, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Anne Sylvestre, Les gens qui doutent, dans Grand Canal sur France Inter. Sébastien Lifshitz, on évoque votre documentaire Madame Hoffman sur les écrans mercredi, dans lequel on voit cette infirmière Sylvie Hoffman qui raconte certains souvenirs qui l'ont traumatisée. Elle a ranimé son propre enfant, par exemple. Elle a elle-même des problèmes de santé, comme sa mère et son compagnon. Tous ont des corps éprouvés.
Mmh.
Ça frappe.
Ça s'arrête jamais, en fait. C'est-à-dire que, en fait, non seulement Sylvie veille sur son équipe, sur ses patients, et quand elle rentre à la maison, elle doit aussi veiller sur sa mère, son compagnon, sa fille. C'est vrai. C'est non-stop. Elle a une sorte de... On pourrait presque dire de... Oui, de rôle presque sacrificiel, en fait. C'est une veilleuse. Elle veille, elle protège, elle répare.
Et en même temps, elle est à la fois drôle et parfois brutale, sans doute pour se protéger et protéger ceux qu'elle aime. Mais quand elle dit à son compagnon qui a subi un quadruple pontage et à qui on a dit d'arrêter de travailler « ton cœur, il est pourri », ou quand elle dit à sa mère qui a un énième cancer « écoute, est-ce que t'es sûr que tu veux faire une chimio parce que t'as 85 ans quand même, donc t'es pratiquement à la fin de ta vie, faut peser le pour et le contre ». Mais en même temps, sa mère est pareille. Quand elle lui dit « moi aussi, j'ai perdu Louis d'une oreille, t'attends 5 ou 10 ans, tu t'y feras ».
Après, ces gens, je trouve, ils ont aussi beaucoup d'humour. C'est-à-dire que Sylvie, elle désamorce aussi beaucoup de situations angoissantes. Et après, c'est vrai qu'elle les cache. D'abord, on est à Marseille. Donc, à Marseille, il n'y a pas de filtre. Les gens se parlent, je dirais... Il n'y a pas de chichi, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que pour moi, c'était aussi la promesse, je dirais, de paroles sincères, d'échanges sincères. Enfin voilà, les gens sont pas dans des postures. Et c'est vrai que quand elle dit ça à sa mère, c'est parce que en fait, tout simplement, sa mère ne peut pas supporter une cinquième chimio. C'est pas possible. Et son cœur en fait n'y résisterait pas en fait. Ce serait donc d'une certaine manière, elle lui fait accoucher de cette évidence. Quand elle dit à son compagnon qu'il a un cœur pourri. C'est parce qu'il est dans le déni total de la question et qu'il va faire des joggings sur des pentes en montagne, etc. Et qu'elle flippe. Et qu'à un moment, il faut juste qu'il entende.
Dans toute cette brutalité qui règne à l'hôpital, il y a aussi une légèreté. Sébastien Lifshitz, vous montrez quand les pauses du personnel soignant qui parle de ses rêves, qui plaisante. C'est toujours interrompu par des coups de fil de condoléances. Mais il y a ça aussi. Cette scène magnifique où les infirmières font semblant de faire des cocktails avec... les produits qu'elles injectent aux patients.
C'est-à-dire que Sylvie, elle a vraiment tout fait pour, comment dire, pour libérer la parole et que ça puisse déconner à l'intérieur du service. D'abord parce que les patients adoraient ça. Elle se mettait, par exemple, à faire des... quand elle faisait la toilette, en fait, des patients, elle mettait toujours un tube, une chanson, elle faisait une sorte de karaoké tout en nettoyant les patients, et ils étaient juste ravis. Quand vous entendez dans les couloirs des gens éclater de rire, hein, mais ça fait tellement du bien, parce que c'est la vie, tout simplement, qui est là et qui s'exprime, et les gens, même s'ils sont malades, ils n'ont pas envie d'être dans un cimetière, si vous voulez.
En 2016, dans Les Vies de Thérèse, vous aviez filmé Sébastien Lipschitz, Thérèse Claire, grande figure du militantisme féministe, en train de mourir à sa demande, d'un cancer aussi. Quel est votre rapport à l'agonie, au fait d'y assister, de le montrer ?
Ah, ça, c'était toute une question pour Les Vies de Thérèse. En fait, ce film que Thérèse m'a demandé, vraiment, au départ, je ne voulais pas le faire. Je l'ai fait parce qu'elle me l'a demandé. C'était quelque chose pour moi qui était assez éprouvant quand même de l'accompagner dans les dernières semaines de sa vie. Mais je comprenais en fait que pour elle, inventer un dernier geste politique, en parlant justement qu'est-ce que c'était que d'apprivoiser la mort, d'apprendre à mourir en fait. Elle considérait que c'était quelque chose dont on ne parlait jamais et qu'elle trouvait que ça serait intéressant tout d'un coup d'utiliser sa propre vie, son propre corps pour parler de ça. Et donc, elle m'a embarqué dans son projet. Et j'ai vraiment, dans ma tête, je me suis dit, non, il faut que je trouve un moyen de lui dire non, que c'est pas possible, etc. Mais c'était impossible, en fait. Je voyais qu'elle en avait besoin. Et voilà. Donc, du coup, on l'a fait ensemble, ce film. Mais après, il y avait la question du dernier souffle, du dernier moment. Et en fait, ses enfants m'ont dit, tu sais, notre mère, on a dû la partager toute notre vie. Quand on était ados, on rentrait à la maison, il y avait toujours, 3, 4, 5, 10 personnes, tout le temps à table, et on refaisait le monde. Parce que dans le fond, en fait, pour Thérèse, elle a arrêté d'être maman, c'est-à-dire elle est devenue Thérèse. D'ailleurs, les enfants ne l'appelaient pas maman, ils l'appelaient Thérèse. Et elle était dans le collectif, dans le nous. Et c'est ça qui l'intéressait. Et elle voulait vraiment amener ses enfants dans cette culture. Et ils m'ont dit, tu sais, jusqu'au bout, parce qu'évidemment, elle leur avait pas dit que j'allais la filmer avec une caméra. Et un jour, donc, ils me voient débarquer, comme ça, et ils me disent, Sébastien, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est là où j'ai compris, j'ai dit, ah oui, d'accord, donc Thérèse vous a pas dit. Et je leur ai dit, si, au début, ils ont refusé, évidemment, que je les filme. Ils m'ont dit, ah non, écoute, là, c'est pas possible, le moment est trop difficile, trop douloureux. Et je leur ai dit, mais si je ne vous filme pas, je vais juste filmer une femme qui meurt seule. C'est ça qui va se passer. Et ce qui est faux, en plus, ce n'est même pas la réalité. Donc, ils ont compris d'une certaine manière qu'ils étaient dans une forme d'obligation d'accepter. Et pour elles. Et c'est ce qu'ils ont fait très, très, très généreusement.
Je suis étonnée de la légèreté de ma vie en ce moment. Je pense à des choses insignifiantes. C'est très curieux, cette espèce de période de latence. Oui. C'est entre besoin ultra primaire et réflexion. C'est même pas une réflexion pointue. Je n'ai pas de réflexion. J'attends. Je devrais être dans les pensées métaphysiques, tu vois. Est-ce que j'occulte la mort? Est-ce que j'occulte l'agonie? Peut-être. Je ne sais pas. Je me dis, oh là là, tout ce que j'aime. Et tous ceux qui m'aiment, comment quitter tout cela ?
C'était juste pour la beauté, un extrait des Vies de Thérèse.
Sébastien. Et peut-être, pour terminer, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au dernier souffle, et j'ai estimé en fait qu'il fallait laisser la famille avec Thérèse et que voilà, et que au moins ce moment-là, ce dernier moment, ça soit un moment juste entre eux.
Vous avez dit dans une interview déjà en 2020 que vous ne sortiez jamais indemne d'un documentaire. Comment, dans quel état êtes-vous sorti de Madame Hoffman ?
Épuisé. j'étais un peu rincé mais en même temps j'étais aussi très excité à l'idée de me confronter au montage et parce qu'évidemment dès que le tournage est terminé. Je n'arrête pas de cogiter dans ma tête et déjà pendant même cette année de tournage, au moment même où je tourne, en fait, vous montez tout le temps. En fait, vous imaginez plusieurs lignes de récits possibles et parce que la structure en fait d'un documentaire, elle se construit véritablement au montage. Et donc voilà, donc je cogite comme un dingue et donc j'ai hâte finalement de passer à l'étape suivante.
Sylvie n'a toujours pas été remplacée.
Non. Non, elle a été remplacée. D'ailleurs, on voit sa remplaçante dans le film, mais en fait, elle a fait un burn-out au bout de quelques mois et elle a été arrêtée. Et depuis, en fait, il ne trouve personne pour la remplacer.
Vous dites, Sébastien Lifshitz, que l'hôpital, c'est une formidable utopie politique.
Mmh. Bah, pour moi, c'est vraiment le lieu de la République. L'hôpital, c'est le lieu de la santé pour tous, qui nous concerne tous. Et évidemment, on se pose la question aujourd'hui de... Sachant qu'en fait, que c'est un lieu qui n'attire plus toute cette jeunesse, tous ces étudiants en médecine, qui au contraire veulent la plupart du temps plutôt fuir l'hôpital. Alors que les CHU sont vraiment des lieux de pointe, en fait, et où il y a une formation extraordinaire, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est une génération qui, tout d'un coup, ne veut plus se laisser avoir par le système et tout ce qu'il demande, à tel point que Sylvie, d'ailleurs, s'est beaucoup interrogée sur son propre engagement, en fait, en disant, dans le fond, j'ai donné sans limite, sans compter, toute ma vie. Alors, elle en a payé un peu le prix fort, et elle s'est demandé, dans le fond, si c'est pas eux qui avaient raison. De savoir se protéger, de protéger d'abord la qualité de leur vie et d'avoir finalement des exigences qui sont complètement naturelles en fait.
Votre choix musical, Sébastien Lifshitz, Beth Gibbons, Floating on a Moment.
Une sublime chanson. Ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu, Beth Gibbons.
Sur France Inter, on l'entend.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Sébastien Lifshitz vous a demandé de faire découvrir quelque chose aux auditeurs et vous avez choisi un film.
Je vais avoir 18 ans, je dors avec mon frère.
Eh ben moi, j'ai pas les finances.
Déjà, il ronfle et en plus de ça, il pue des pieds.
Mais dors en bas. Hein.
Ça vous intéresse pas de la
plus violente. Ouais, fils à papa, t'es.
Pour le paiement. Tu travaillais pas pour t'acheter un truc.
Tu le demandes. Toi, tu travailles.
Mais ta saison, on est là pour profiter de la vie, pas pour travailler dès le plus jeune âge.
T'es encore une gamine, perdée.
Moi, ça, je suis une gamine.
T'es une gamine. Qu'est-ce que tu vas faire? Une femme de ménage toute ta vie? C'est pas comme ça que j'imagine ma copine, alors que moi, je serai à l'école l'année prochaine.
T'espères rencontrer une petite bourge là-bas?
Il pleut dans la maison de Paloma Sermondaï, sortie le 4 avril dernier, que vous avez découvert dans un festival.
Ouais, j'ai adoré ce film. En plus, Paloma était là et j'ai aussi appris à la connaître. C'est un film en fait qui est très imprégné de documentaire. C'est une fiction. Il y a une maîtrise à la fois de la mise en scène, du montage. Les ellipses sont très belles. Les deux comédiens qu'on voit en fait sont deux comédiens qu'elle a filmés dans un court métrage et qui sont des non-acteurs au départ. Et le film est tout le temps dans cette espèce de tension entre fiction et documentaire. Que je trouve magnifique. Elle avait fait un premier long qui s'appelle Petit Samedi, qui était un documentaire où elle filme en fait son frère qui est toxico et la relation qu'a son frère avec sa mère. C'est un portrait aussi magnifique, hein, un portrait de famille, parce qu'en plus c'est sa famille. Et là encore, la mise en scène était très belle. Enfin, je sais pas, elle a une façon de filmer les gens, de filmer aussi les espaces. Il y a de l'humour, c'est jamais, ça s'apitoie jamais. Voilà, enfin, pour moi, c'est une formidable cinéaste.
Vous dites que votre esthétique vient profondément de la fiction et reproduit sa grammaire dans le documentaire. Et dans Madame Hoffman, à un moment, on voit des archives de petites filles déguisées en infirmières. Ça vient d'où?
Ça vient des photos de Sylvie.
C'est vrai?
Ouais, vraiment.
Mais le petit film?
Le petit film.
Où il y a une petite fille déguisée en infirmière?
Dans Madame Hoffman?
Oui.
Je me souviens pas de ça.
Ah non, enfin, elle est... C'est une archive où une petite fille fait des pansements et elle porte un costume d'infirmière.
Ah oui, pardon. Ah non, ça c'est une archive. C'est une archive que j'ai mise, mais qui me faisait penser à une photo de Sylvie où elle est à un goûter d'anniversaire et en fait le déguisement qu'elle a choisi, c'est infirmière. Et je me dis bon, est-ce que c'était prédestiné? Mais après, il faut dire que sa mère et elle-même être soignante et qu'elle entendait en permanence, dès que sa mère rentrait à la maison, toutes les histoires de l'hôpital et probablement qu'elle a été très imprégnée en fait de tous ces récits et que ça a créé chez elle un désir.
Vous avez eu à monter 150 heures de rush sans scénario préexistant pour Madame Hoffman, mais pour votre film Adolescente, qui suivait deux jeunes filles de leur 13 à leur 18 ans, vous avez collecté sur 50 tournages 500 heures de rush. Le montage a pris un an. Vous n'avez jamais eu le vertige devant tant de matériaux?
Ado aussi. C'est parce que franchement, 500, là, c'était vraiment costaud. Et ça a été vraiment un travail de patience. Tina Baz, ma monteuse, a été extraordinaire. Elle a été, je dirais, très... comment dire? À la fois patiente et... elle avait une règle, quoi. C'était, bon voilà, on fait les choses petit à petit. Je me souviens que le premier bout à bout du film faisait 12h30. J'avais jamais fait un premier. Parce qu'on appelle ça un ours, en fait. J'avais jamais fait un ours de 12h30 qu'on s'est projeté vraiment dans la salle, elle et moi, qu'on a regardé.
D'affilée.
Et on s'était pris à manger, on avait, comme ça, on avait pris plein de trucs autour de nous. Mais c'était très intéressant comme expérience. Ça a été assez passionnant, en fait. Comment réussir en deux heures de film à résumer 50 vies? C'était un défi, quand même. Et au bout du compte, j'ai adoré faire ça.
Votre fascination pour l'image, Sébastien Lifshitz, elle remonte à loin. Ça remonte au dessin d'enfance? Au dessin où on vous a encouragé, puisque je crois que votre mère les collait sur les murs. Alors que les parents, d'habitude, prennent les dessins, disent c'est magnifique et puis les mettent à la poubelle.
Oui, c'est vrai. C'est marrant que... oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, je passais ma vie à dessiner. Et on mettait les dessins sur les murs, comme ça, à côté de tableaux et tout ça. Donc j'étais très fière. Et on me disait à quel point que mes dessins étaient beaux et tout ça. Donc est-ce que ça a été aussi là, comme pour Sylvie, une forme d'encouragement? Peut-être.
À partir de là, vous êtes intéressé à l'art en autodidacte, vous avez fait de la photo, vous avez travaillé dans le milieu de l'art contemporain, puis vous êtes dirigé vers le cinéma parce qu'il représentait pour vous la synthèse de tout ça. Sébastien Sébastien Lipschitz, vous reconnaissez ou pas?
Mal, c'est le même minuit.
Oui, le générique de Francis Lai, vous savez.
Ça a été une éducation pour moi, ça. C'est, je passais mon temps à bouffer des films à la télé. Il y avait La Dernière Séance, le Ciné-Club et le cinéma de minuit. Et ça, ça a été une école vraiment de cinéma pour moi, incroyable.
Parce que vous aviez une télévision, petit.
Ouais, parce que quand mes parents ont divorcé, j'ai hérité de la télé, bizarrement. Et on me foutait la paix, en fait. On me laissait regarder. Tant que je me levais pour aller à l'école et que j'avais des bonnes notes, j'avais le droit, finalement, de regarder ce que je voulais à la télé. Et bon, voilà. Et j'étais complètement passionné de cinéma. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait une cinéphilie populaire, en fait, sur les six chaînes. Et il y avait quand même Hitchcock, Fritz Lang en prime time. Enfin, c'était assez incroyable.
Et un soir, vous êtes tombé sur La Belle et la Bête de Cocteau. Vous avez allumé le film, il avait déjà commencé. Et là, un plan vous a fortement marqué.
Ouais, j'ai eu peur en fait. C'était vraiment un sentiment. Je me souviens de mes deux premières peurs au cinéma. Et ça a été vraiment Blanche-Neige. Quand Blanche-Neige s'enfuit dans la forêt comme ça.
Ah oui, c'est terrifiant. Ouais. Les arbres s'animent et deviennent monstrueux.
Ouais. Ça m'avait fait très peur enfant. Je me souviens que j'ai. Et il y a eu l'apparition de la bête dans cette lumière d'Alcan incroyable, complètement expressionniste. Et ce conte, bon, j'ai été fasciné par ce film, enfant. Mais je ne pouvais plus décoller mes yeux de l'écran, en fait. J'ai été happé, hypnotisé avec cette peur au ventre.
Vous dites avoir découvert la spiritualité chez Mizoguchi et Dreyer.
Oui, bien sûr. Il y a une transcendance incroyable. Enfin, La Passion, par exemple, c'était un film. La Passion de Jeanne d'Arc, ça a été un film qui m'a bouleversé. Je l'ai vu au cinéma, à la Cinémathèque. Et je me souviens, je suis arrivé en retard. Et quand je suis arrivé, il y avait le visage de Falconetti en grand, comme ça. C'était un très gros plan sur son visage. Là encore, pareil, hein, une expérience d'hypnose, quoi. J'étais complètement envoûté par la mise en scène de Dreyer, qui était d'une modernité incroyable quand même. C'était des gros plans contre-plongés sur des fonds blancs, comme ça. C'était d'une pureté, d'un minimalisme. Et il n'y a plus que finalement ce visage déchaîné, en fait, de Falconetti, bouleversant d'humanité. Enfin, je sais pas, ça a été une expérience pour moi incroyable.
Vous êtes un collectionneur de photographies que souvent vous dénichez dans les brocantes, les puces. Sébastien Lipschitz, vous avez même publié et exposé Mauvais Genre, des clichés qui vous appartiennent. Mais ça remonte aussi à l'enfance, puisque petit, vous découpiez des magazines appartenant à vos parents. Et je trouve ça assez amusant, vous faisiez des classeurs avec des types de postures ou de regards.
Oui. Ben, j'analysais en fait la manière dont les images étaient construites. Par exemple, je me souviens, il y avait le regard vers le bas, le regard face, le regard vers le ciel. Tout ça exprimait évidemment tout, parce que la peinture est codifiée. Donc, je voulais comprendre. Et la posture des mains, donc je m'amusais à classifier en fait les images et à les analyser. Parfois à dessiner, à reproduire aussi des choses. L'histoire de l'art, c'est quelque chose qui m'a passionné. Hein. J'ai fait l'école du Louvre et je me destinais à faire de la photo en fait au départ. Le cinéma me semblait tellement inatteignable, c'était un autre monde pour moi. Et j'ai eu cette chance, voilà, un jour par hasard, de rencontrer une amie dans une fête qui faisait la Fémis. Et c'est ça qui m'a finalement mis le pied à l'étrier. Mais sinon, je pense que ça aurait été pour moi quelque chose de complètement inaccessible.
Est-ce que vous seriez à l'aise si on vous filmait?
Non. Ça, c'est sûr que non.
On a déjà essayé?
Moi-même, je me suis auto-filmé, je pourrais dire, parce que dans Les Corps Ouverts, en fait, à un moment, un acteur devait jouer un rôle. Et en fait, cet acteur n'est jamais venu. Et j'ai demandé à Yamine, en fait, qui était l'acteur donc principal du film, qu'est-ce qu'il préférait. Et c'est moi qui le faisais répéter. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prenne quelqu'un, voilà, avec qui on n'aura pas le temps de répéter? Ou moi, il m'a dit, toi. Et ça s'est fait comme ça, et donc j'ai été dans l'obligation de me mettre devant la caméra.
Merci beaucoup Sébastien Lipschitz.
Merci.
Votre documentaire Madame Hoffman sortira au cinéma ce mercredi 10 avril, et vous assisterez à plusieurs avant-premières jusqu'à la fin du mois. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, la technique Adèle Caglar, et dans un instant Very Good Trip par Mishka Assayas. Quel est le programme ce soir, cher Mishka?
Écoutez, le programme, je vais vous le dire, mais je voulais tout d'abord vous dire que j'étais très touché par la sensibilité et l'humanité de votre invité. Voilà.
Oh.
Mais c'est vrai, je je le dis pas toujours, mais là je le dis. Bon bref, ce sera des voix très connues, il y aura Vampire Weekend et Beyoncé, d'autres plus obscures, et puis il y aura matière à sourire et à danser.
Et voilà. Nous serons là.
J'espère.
Ah bah oui, à tout de suite.